Les écrans philosophiques, un cycle conçu par la Maison Populaire et organisé avec le Collège International de Philosophie et le Cinéma Le Méliès, en collaboration avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enregistrement de la séance du mercredi 23 novembre 2011, à l'issue de la projection du film « La Voie lactée » de Louis Buñuel, réalisé en 1969 et présenté par Joëlle Marelli, philosophe, directrice de programme au Collège International de Philosophie.
Je voulais plutôt proposer quelques lignes de réflexion et puis échanger avec vous. Enfin, je ne sais pas. Évidemment, c'est un peu difficile. Une des raisons pour lesquelles ça me paraît un peu difficile de faire une analyse, c'est parce que voilà, on vient de voir le film, c'est peut-être une expérience qui n'est pas différente. Donc voilà, moi j'ai voulu montrer ce film parce qu'il me semble, enfin voilà, par rapport à ce film, j'ai une vision très candide, naïve, qui est la vision de quelqu'un qui a grandi en pays chrétien, qui n'est pas chrétienne, et donc ça m'enchante absolument d'avoir ce regard de ce très grand cinéaste Buñuel sur le christianisme, sur les christianismes, et plus particulièrement sur le les christianismes à partir des hérésies, qui a ce regard, qui est en même temps le regard d'un agnostique, qui est en même temps plein de tendresse. Alors il a certainement aussi beaucoup de colère, mais je trouve que ce qui est vraiment intéressant, là vraiment je me disais ça en revoyant le film, c'est à quel point c'est un film qui n'est pas, j'ai envie de dire, bêtement anticlérical, même s'il est très clairement plus que sceptique, enfin agnostique. Il y a une espèce de chose très, une espèce de position qui me semble aujourd'hui très rafraîchissante. Pas seulement, disons, très rafraîchissante parce qu'elle revisite l'histoire du christianisme, donc comme je le disais, comme ça apparaît tout le temps dans le film, à partir de ses hérésies, à partir de constamment mettre en regard le dogme, l'hérésie que ce dogme a pu susciter, ou les hérésies, enfin, tout ça, une espèce de chose, comme vous avez vu, ce road movie anachronique en permanence, cette espèce de passage, cette liberté extraordinaire. Voilà, de filmique, stylistique, qu'on trouve dans un autre film de la même période, enfin, on trouve toujours chez Buñuel, mais de manière différente. Là, il y a une facture, j'ai envie de dire, qui rappelle un autre film de la même période qui s'appelle Le fantôme de la liberté. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Donc, qui est aussi, enfin, presque encore plus radical dans la liberté de fabrication, enfin, voilà, de tout ce que le médium film permet de faire, allègrement, on passe d'un moment à un autre. Enfin, voilà, à mon avis, le moment le plus fort de ce point de vue-là, c'est le moment où les deux huguenots, enfin, les deux calvinistes, fuyant leur poursuivant, changent de vêtements, deviennent des chasseurs contemporains, et acquièrent immédiatement, à la fois restent ce qu'ils étaient, et acquiert immédiatement les savoir-faire, enfin lire l'heure, tirer au fusil. Bon, j'ai une montre, donc je lis l'heure, j'ai un fusil, donc je tire. Mais en même temps, ils restent ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des huguenots en fuite. Et puis l'apparition de la Vierge, de ce point de vue-là, est dans une espèce de continuité narrative avec leur calvinisme tout d'un coup qui est ébranlé. Voilà. Et il me semble que c'est vraiment dans des séquences comme ça qu'on voit. Une position de Buñuel qui est à la fois, disons, platement critique à l'égard de l'universalisme ou du postulat d'unité de chacune de toutes les églises qui ont existé, hein, disons, l'église catholique à laquelle certainement il a le plus à faire lui personnellement, parce que, bon, voilà, 69, Franco en Espagne est encore au pouvoir, enfin. Il dit, lui, dans des interviews qu'il a faites à propos de ce film, on lui demande, est-ce que vous pensez que ce film aurait pu elle fait en, enfin, aujourd'hui en Espagne ou sortie en Espagne, sinon évidemment pas. Donc voilà, l'Espagne franquiste, le christianisme dans l'Espagne franquiste, c'est certainement quelque chose qui est très actuel pour lui. Voilà, même s'il a quelque chose à régler avec ce christianisme-là, ce catholicisme-là, il a une manière légère et tendre, parce que voilà, c'est sa culture, c'est son histoire. Donc, voilà. Donc moi, j'ai sur ce film un regard, à la fois en préparant comme ça cette petite intervention, je me disais, il faut quand même que... Enfin, voilà, j'ai énormément de lacunes, moi, en histoire chrétienne, dans tous ces trucs-là. Puis en même temps, ça me fascine complètement. Puis en même temps, voilà, quand on a grandi en pays chrétien, on a lu toute la littérature... toute la culture, voilà, c'est ce qu'on appelle la culture commune. Hein, et voilà, Dieu sait si aujourd'hui c'est une notion comme ça qui est très très présente, la culture commune, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que tout le monde doit se l'approprier, en faire partie, s'y intégrer? Est-ce qu'il faut s'y intégrer? Est-ce qu'on peut faire autrement que de s'expliquer avec elle? Et en même temps, quand on est face à un film comme ça, voilà, j'ai envie de dire, je suis dans un rapport à la fois d'inquiétante étrangeté ou d'étrange familiarité. Voilà, c'est à la fois très proche parce que j'ai grandi là-dedans et puis en même temps, c'est très exotique. Quoi. Et j'aime bien cet exotisme que Buñuel arrive à donner au christianisme hégémonique. Tout d'un coup, il en fait quelque chose d'abord de très éclaté, de très pluriel et de très dissensuel que c'est. Enfin, voilà, alors, donc, dans le cadre de mes petites révisions, et comme ça, je me dis, bon, alors quand même, si on posait question sur alors, c'est quoi cette hérésie-là, alors je me dis, il faut quand même que je sache un petit peu de quoi ça cause et tout. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est le film, c'est la matière, c'est comment c'est fait. Je veux dire, j'adore Delphine Seyrig à la fin qui dit. On va s'amuser dans l'herbe, enfin voilà, moi, vous n'êtes pas si pressé, enfin toujours aussi le temps dans ce film, hein. Donc, évidemment il y a des passages, des anachronismes stylistiques, etc., mais donc il y a le calviniste qui regarde sa montre, et puis après l'apparition de la Vierge, quand ils sont tous les deux assis, comme ça, l'un à côté de l'autre, il regarde sa montre, il dit, ah, c'est fou comme le temps passe vite, ça prend tout d'un coup une espèce de... J'ai pas envie de dire Charles, parce qu'en même temps, c'est très léger, mais voilà. Et alors, à la fin, quand elle dit... Bon, moi, j'ai intitulé cette petite présentation « S'amuser dans l'herbe, le temps qui reste », parce qu'il me semblait que, voilà, le temps qui reste, je pensais à Agamben dans son livre sur Paul, enfin, cette espèce de chose que le christianisme, à ses débuts, il y a une urgence apocalyptique. Et qu'on sent bien là, à travers toutes ces hérésies, comme ça, il y a une espèce d'urgence à formuler les choses, à surtout, enfin voilà, et puis d'intensité, de nécessité, comme ça, vitale. Alors est-ce que trois personnes en une personne en trois, Dieu, machin, transsubstantiation, la virginité de la vie, enfin tout ça, c'est des... Bon, et quand on prend un peu de distance, alors on sait qu'il y a eu des gens qui sont. Enfin, il y a eu des massacres, il y a eu il y a eu des choses épouvantables qui sont commises autour de ça. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, je fais une parenthèse, ce que je trouve extrêmement fort dans ce film sur les hérésies dans le christianisme, ou sur le christianisme à partir de ces hérésies, c'est que il n'y a pas du tout de rapport, enfin, ce que je trouve fort, ça pourrait être autrement, mais il ne s'occupe pas d'une espèce de... Il ne s'occupe pas de dénoncer le christianisme à partir de sa cruauté très réelle qui apparaît dans le film. Hein. On voit bien, il y a des autodafés, il y a des gens qui sont brûlés, il y a des gens qui sont menacés. Enfin bon. Mais il n'y a pas tout le rapport à l'autre des chrétiens. Il n'y a pas... il y a un prêtre espagnol, à un moment donné, ça fait penser à 1492, enfin, Colomb, l'Amérique du Sud, enfin, ce qu'on appelait après la controverse de Valladolid, qui n'est pas exactement ce qu'on en a dit, mais peu importe, enfin, les massacres d'Indiens pour sauver leur âme. On ne massacrait pas simplement les gens pour rien, enfin, par simple cruauté, on les massacrait pour les sauver. Hein. Enfin, mais ce film ne s'occupe pas de ça. On est vraiment dans un... Le christianisme s'explique avec lui-même. Et alors, en lisant, en faisant un petit peu comme ça des lectures pour essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle d'hérésie, enfin, c'est quoi exactement ? Bon, je suis tombée sur des bouquins. Bon. Et alors, ce qui est vraiment frappant, c'est que la multiple. Enfin, on a toujours l'impression comme ça que le christianisme, c'est une chose comme ça. D'abord unifiée, et puis il y a des hérésies, des espèces de déviations. Mais c'est exactement le contraire en réalité. C'est-à-dire que l'effort d'unification, qui est un effort, on peut dire, violent, hein, hégémonique, il vient en second. Ce qu'il y a d'abord, c'est un éparpillement. Ce qu'il y a d'abord, c'est des tas de lectures différentes à partir de, voilà, du message apostolique. Et donc voilà, donc pour ça, disons ça, je voulais commencer un petit peu par ces raisons personnelles que j'avais d'aimer ce film, et en plus de continuer à pas tout à fait comprendre tout, quoi, et me dire ça, c'est important, ça me dit quelque chose sur ce qu'on vit aujourd'hui. Bon, c'est assez évident, quelqu'un tout à l'heure disait. Bon, peut-être en 69, quand ce film a été tourné, c'était la fin de quelque chose. C'est une manière de se retourner sur un film anticlérical sur des périodes. Mais je ne suis pas complètement sûre que c'était déjà ça. Pour la raison que je disais, notamment, qui est que pour Buñuel, je pense que c'était encore très actuel, notamment en Espagne, mais ailleurs aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, ce film nous dit quelque chose sur... Sur la laïcité, enfin sur la religion de la laïcité aujourd'hui. Alors je vais essayer de m'expliquer. Il me semble que ce que moi j'y vois, c'est à quel point, donc à partir de cette idée de culture commune, comme ça, qui est à la fois reniée, refoulée, effacée, écartée, c'est-à-dire que c'est une question réglée, finalement, le christianisme, c'est une question réglée par la sacro-sainte laïcité. Mais à mon avis, c'est pas si réglé. Enfin, je suis pas seule à penser d'ailleurs, mais c'est pas une histoire si réglée que ça. Et notamment parce que c'est un élément de la culture commune. Notamment parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'identité française. Hein, et parce que ça imprègne. Enfin voilà, l'histoire du christianisme, l'histoire de l'universalisme chrétien, on va dire. Hein, donné, on a un curé qui est fou d'ailleurs, mais ça se voit pas, qui explique de manière absolument visionnaire, à mon avis, que aujourd'hui tout le monde est catholique, et les musulmans aussi, et les juifs encore plus. C'est évidemment quelque chose qui, vu d'aujourd'hui, enfin peut-être pas par tout le monde, mais peut paraître d'une grande, grande pertinence, enfin, d'une grande acuité, c'est-à-dire que c'est voir à quel point l'universalisme chrétien a été opérant. Et il a été opérant, y compris et probablement surtout, à travers le travail de sécularisation qui s'est fait à partir, disons, du 17-18e siècle, pour résoudre les questions de guerre de religion interne au christianisme. La sécularisation, la séparation de l'Église et de l'État, la privatisation de la religion, c'est des phénomènes qui viennent trouver des solutions aux guerres de religion internes au christianisme. Mais en même temps, c'est immédiatement quelque chose qui est appliqué, qui est retourné vers les autres religions, c'est-à-dire l'islam, enfin les autres grandes religions monothéistes en l'occurrence, l'islam et le judaïsme. Il y a des injonctions comme ça, c'est-à-dire que pendant les Lumières, alors que le débat c'est la sécularisation, la privatisation, enfin, la religion naturelle, hein, faire en sorte, enfin, penser une religion naturelle pour effacer pour effacer les, pour mettre de côté toutes les raisons de guerre intestine intra-chrétienne. Mais tout d'un, immédiatement, la grande préoccupation, c'est les juifs, les musulmans. C'est-à-dire, si religion naturelle, alors les juifs aussi doivent se convertir à la religion. Je vais très vite là. Mais d'une certaine manière, il y a une injonction qui est faite dans tout le débat de l'émancipation des juifs pendant le XVIIIe siècle et au XIXe siècle, qui est au fond, il faut qu'ils se convertissent à la religion naturelle, à cette idée de religion naturelle, qui est en réalité un christianisme allégé, quoi. Voilà, donc je ne veux pas parler énormément, ça c'est disons, quelques éléments de ma vision du film, mais peut-être que pour le moment je peux en rester là, puis on peut un peu discuter, non ? Je ne veux pas parler trop longtemps.
Bonsoir. Pas mal marché avec marcheurs, sur un chemin ou un autre, ceux qui cherchent. Mais en fait, au tout départ, et je dirais même sur la fiche du film, il y a ce titre qui est La Voie lactée. On a un petit discours au début qui nous explique, en fin de compte, le chant de l'étoile qui nous amène, si on est des rois mages, à trouver le lieu de naissance du Christ. Si on. Finalement, cette étoile, on se trouve à Saint-Jacques-de-Compostelle, et en fait, très rapidement, Dieu dit non, mais en fait, c'est la voie lactée, les gars. Replacez-vous en tant qu'observateur terrestre, replacez-vous dans cette grande matrice qu'est la voie lactée, et cessez d'imaginer que par des biais qui sont de l'ordre de la nomenclature, hein, qu'elle soit espagnole, latine, ou quoi qu'est-ce, qu'en fait, on se replace d'un point de vue purement de terrestre. Et je pense que ce qu'il fait, c'est une lecture du christianisme, un peu comme un enfant. C'est-à-dire qu'il voit toutes les absurdités de ce qui lui a été donné à voir dans une culture baroque, espagnole, chrétienne, catholique. Et il décrit ça peut-être avec une sorte de candeur, je suis d'accord avec vous. Et mon commentaire n'est pas vraiment une question, c'est juste un constat. Et je trouve que cette voie lactée, cette matrice culturelle dans laquelle il nous ramène, un peu comme Podogi l'a fait dans des récits baroques dont on perd le fil, comme dans le manuel trouvé à Saragosse, c'est peut-être finalement, je sais pas, cette figure de la Vierge revient, la figure de la prostituée à la fin et au début, c'est un des rares points de consistance dans ce film, dans lequel il dit finalement, ben écoutez, laissez-vous peut-être porter par des observations plus terrestres et votre bagage. Parce qu'en fait, je crois qu'il n'est pas très critique par rapport à la religion. Il fait un constat un peu des contradictions qui sont inhérentes à la condition humaine. Et je pense que le choix de la voie lactée, tout ça pour dire que le choix de la voie lactée en tant que titre et la petite préface qu'il nous donne, donne vraiment le ton de ce qu'il a voulu faire, je pense.
Oui, je pense que je suis assez d'accord avec vous.
J'ai peut-être un avantage par rapport à certains, c'est la deuxième fois que je vois les films. Je les ai vus dans les années 70 et je les vois pour la deuxième fois. Bon, ce que je sais de Buñuel, c'est que ces histoires de religion l'ont toujours passionné. Avant ces films, il avait fait Simon du désert, tout ce qui est histoire du christianisme primitif, c'est vraiment un sujet très. Et qui revient souvent chez lui. Je l'ai il y a longtemps, les mémoires, je l'ai perdu, Mon dernier soupir, enfin, il a écrit ça avec Jean-Claude Carrière, le scénariste du film, et je crois me souvenir qu'à propos de la Voie lactée, bon, je pense qu'il s'est fait plaisir comme d'habitude, il ne faut pas tout expliquer, et lorsqu'à la fin, il nous dit que tout est rigoureusement historique, etc., il faut se méfier également. Hein. Et je ne suis pas expert en hérésie, mais je crois que même si pour faire les films, il s'est documenté, d'abord il était déjà documenté, il invente également. Et moi, tel que je vois les films aujourd'hui, et c'est comme le christianisme qu'en fanatisme. Je ne vois pas la lumière du fanatisme. Je vois plutôt que aussi bien les hérétiques que les chrétiens ou les catholiques, et quand on voit l'autodafé de l'évêque qui est déterré, etc., c'est évident. Bon, je ne sais pas si c'est des zigonos, des protestants, ça se passe dans l'Espagne du XVIe siècle, probablement, une Espagne un peu fantaisiste, et ils sont aussi fanatiques les uns que les autres. Donc moi, je vois plutôt les films, si l'actualité des films aujourd'hui, plutôt comme la religion, l'ombre de la religion, il y a la lumière, bien entendu. Bien sûr qu'à côté des inquisiteurs, il y a eu Las Casas qui a défendu les Indiens, par exemple. Hein. Mais moi, je vois plutôt l'ombre. Et je vois aussi beaucoup de dérisions et beaucoup de choses comme ça. Donc c'est tout ce que je voulais dire, mais il n'y a pas qu'une lecture, il y en a plusieurs, bien entendu.
Je ne pense pas que ce soit contradictoire. Enfin, oui, l'aspect fanatisme qu'il y a dans ce film, je ne l'ai pas souligné parce qu'il me semble qu'il est suffisamment visible. La part d'invention également. Je pense que la raison pour laquelle il souligne le caractère véridique, je crois qu'il y a énormément de propos qui sont directement extraits effectivement de controverses, enfin de débats.
Il y a des choses qui sont.
Après, bien sûr qu'il y a plein
de. On a pas vérifié, mais il y a beaucoup de fantaisies. C'est-à-dire que ce qui est écrit à la fin. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre.
Ce n'est pas un film historique. Non.
D'ailleurs, Buñuel était un grand blagueur. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il s'amusait beaucoup à dire des choses et comme ça. Bon, il ne faut pas prendre au sérieux Buñuel. C'est mon point de vue. Hein.
Non, mais bien sûr. Ceci dit, ce que je trouve admirable aussi, c'est par exemple la séquence du duel où on a deux acteurs de films de cap et d'épée, Jean Piat et je crois que c'est Georges Marchal, le deuxième. Les échanges qu'ils ont, ce sont des échanges qui sont tirés effectivement, les propos qu'ils échangent, c'est effectivement tiré de textes jansénistes et jésuites de cette époque-là. C'est assez savoureux. L'invention, oui, c'est de mettre ça en scène dans un truc de cap et d'épée.
Par ailleurs, ce qui est intéressant, les films sont sortis en 69, et ils étaient tournés en 68. Oui. Après les événements de mai 68, il y a eu des problèmes. Et je ne sais pas s'il y a comme un écho des 68, lorsqu'il y a ce défilé anarchiste avec les drapeaux rouges et noirs, et bon, ils fusillent les papes, et ensuite toute cette scène assez rigolarde dans la kermesse, catho, etc. Donc, c'est pour là, à mon avis, c'est un truc qui a dû être rajouté au scénario, parce que Buñuel faisait des scénarios là pour. Ses films, c'est la carrière, et Buñuel il s'enfermait en général dans un parador en Espagne, parce que l'Espagne franquiste, il avait déjà filmé en Espagne, je pense. Hein. Ce film, il est de 68, et Viridiana, qui a été Palme d'Or, il doit être de 66. Il a été interdit en Espagne, mais filmé en Espagne quand même. Bon, c'est dire que de temps en temps, il avait une idée en cours des filmations où il y avait l'actualité, et là par exemple, je suis presque sûr. Les scénarios, c'est pas où on peut les consulter, mais c'est une sorte de concession à l'actualité. Et par ailleurs, il y a un écho à la guerre civile d'Espagne, où il a été à Madrid, il a été à Paris aussi, et au Cerro de Los Angeles, près de Madrid, où il y a le Sacré-Cœur, il a été fusillé aussi par un peloton des miliciens. Bon, bref, ça c'est des références qui peut-être n'aident pas à la compréhension du film. Hein. J'insiste sur le fait qu'il y a de temps en temps trop de détails, on se perd d'ailleurs dans les détails, on perd son fil de temps en temps, même si la matrice Voie lactée, elle est évidente, et ça commence à Paris et ça se termine à Saint-Jacques. Bon, j'ai trop parlé, excusez-moi.
Non, je pense que vous avez raison, je ne sais pas s'il a ajouté en cours de route, mais la référence à 68, quand la directrice du petit pensionnat, là,
oui, exactement.
Quand elle dit quand les événements, elle fait référence aux événements.
Dieu merci, on a été préservé, etc.
Oui, non, c'est clair, c'est une référence directe. Oui, oui. Et par contre, la séquence du fusillement du pape, je pense que ça fait clairement référence à l'Espagne.
Oui, oui, non, mais c'est les miliciens. Mais comme c'est au moment de la kermesse, en fait, vous avez souligné davantage en disant cette histoire
Notre personne va intervenir.
Juste pour voir qu'il faut que ça fasse un dialogue. Oula,
non, moi je voulais être très bref parce que bon, faut voir que Buñuel était quand même influencé par le surréalisme aussi. Et je pense qu'on parle de, effectivement de la religion, mais je pense aussi à Salvador Dali qui est derrière. Il y a quand même autre chose que. Alors effectivement, on n'est pas perdu, mais c'est le jeu surréaliste qui nous perturbe, nous provoque. Il est à la fois iconoclaste, il règle des comptes sans vouloir en régler. Je crois que c'est ce jeu qu'il faut se remettre un petit peu dans cette culture du surréalisme qui, dont moi, je pense que Buñuel a été extrêmement influencé. Hein.
Il en a été un des acteurs principaux, oui.
Voilà. Donc je voulais dire qu'effectivement, la structure, le fonctionnement du film est basé justement sur des structures un petit peu surréalistes. On passe, il n'y a pas de notion de d'hier, de demain, il y a tout, il y a une réalité, et puis je pense qu'il y a aussi ses comptes à régler, et notamment on sait très bien ce qui s'est passé sous la période franquiste. Voilà.
Je voulais juste souligner quelque chose que moi j'ai remarqué. C'est lorsque ces deux personnages arrivent au bord de la rivière et qui changent leurs vêtements. Et ils sont beaux comme si de rien n'était, deviennent chasseurs, etc. À ce moment-là, j'ai pensé, voilà quelque chose qui dit les idées traversent les siècles, même s'ils ne portent pas les mêmes habits. Et j'ai trouvé, j'ai traduit, interprété comme ça, c'est quelque chose avec laquelle je suis d'accord moi-même, enfin voilà, donc ça m'a bien plu dans le sens où il y a des idées fortes comme ça, quel que soit le domaine dans la pensée, hein, des choses qu'on a niées en son temps et qui sont avérées justes beaucoup plus tard, et c'est la force des idées qui traversent les siècles en fait, même si elles sont ébranlées, puisque l'ébranlement des convictions est montré à travers ces deux personnages dont l'un voit l'apparition de la Vierge et tout d'un coup change de paradigme, quoi, il change de monde. Et cette idée-là de la force des idées qui traversent les siècles m'a beaucoup intéressée dans ce film.
Mais de quelles idées parlez-vous?
Il reniait la religion catholique, le christianisme, ceux qui déterrent, enfin... Et tout d'un coup, il recroit à la Vierge Marie, quoi. Il est basculé, il est ébranlé dans ses propres croyances. Enfin, il y a un ébranlement qui se fait lors de cette apparition.
Oui, c'est pour ça que je dis aussi qu'il y a une grande tendresse dans ce film, parce qu'en même temps, il y a ce thème de la conversion qui revient, comme ça. Et il montre comme ça une espèce de miracle. Alors évidemment, Buñuel s'affirme agnostique et il n'est pas... j'allais dire suspect, comme si... Bon, mais en tout cas, il est clair qu'il est très distancié par rapport à ça. Et pourtant, il met en scène un miracle, et il met en scène le miracle de manière en abîme, avec après le curé qui raconte un autre miracle. Enfin, oui, il y a une grande naïveté, et une espèce d'enfance, quoi, dans la manière dont il présente son propre rapport à cette culture-là.
Je ne sais pas si c'est aussi clair que ça, mais je ne suis pas certain que Buñuel ait beaucoup pensé quand il fait ce film. Personnellement, je vois surtout une suspension devant toutes les possibilités et l'absurdité permanente de toutes les réponses qu'ils ont proposées. Donc s'il y a une pensée là, c'est plutôt une pensée qui nous montre que on n'a pas fini d'en tirer des leçons, mais je ne crois pas que ce soit aussi clair que ça. Je vois beaucoup d'ambiguïté, je vois beaucoup d'ambivalence dans ce film, à la fois une fascination et une haine du christianisme. Et il ne fait pas le choix entre les deux, donc il n'est pas si clair du tout.
J'ai pas parlé de clarté, je crois que
j'ai
pas
dit... Vous avez dit qu'il est clair que... Donc c'est simplement pour dire que c'est pas clair et que justement, c'est facile, après, de l'emballer dans un discours pour dire que ça signifie ceci ou cela. franchement, j'ai l'impression que ça signifie beaucoup. Hein. Ça signifie autant une chose que son contraire.
J'ai pas du bien me faire comprendre. Je pense en effet que c'est un film qui est sous le signe de l'ambiguïté, de la...
Quand vous dites qu'il n'est pas suspect, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire être suspect?
J'ai dit moi-même que j'ai indiqué moi-même que ça avait, que cette envie de dire il n'est pas suspect pouvait éventuellement prêter à discussion.
Ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'il y a quand même une trame et une intelligence. Ça peut être
le bordel comme un roman baroque comme Potocki, c'est-à-dire on ne s'y retrouve pas. Je pense que c'est juste pour mieux, comme le dirait le Christ notre Sauveur, nous mettre des embûches sur le chemin. On a deux pèlerins qui viennent à la rencontre de nos faux pèlerins à un moment donné, qui sont convaincus de leur pèlerinage, de leur cause, qui viennent à un moment donné devant le prétendu pope, ou je ne sais pas, celui qui a la soutane et qui fait déterrer ce corps, prétendre à affirmer leur schisme, quoi, prétendre à l'unicité de l'un, et puis à un moment donné, effectivement, c'est celui-là qui retombe baba. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est quoi? C'est l'amour de la mère qu'il retrouve, c'est la Vierge Marie, c'est la culture, c'est la matrice originelle, en quelque sorte, de sa culture qu'il ne peut pas renier. Non, mais c'est ça qui est assez marrant, c'est que finalement, au bout du compte, on a deux faux pèlerins qui sont aveugles à la présence de Jésus-Christ sur le bord de la route, etc., qui se portent. Voilà. Et on a deux pèlerins convaincus qui, à un moment donné, se confrontent et partent avec des convictions et sont ébranlés. Quoi. Et je pense que c'est ce qui est persistant à travers l'humanité. Je pense que c'est ces questions de la foi que l'on a ou que l'on n'a pas, que l'on perd, et qu'on a une fois, deux fois, puisqu'on peut retourner sa veste. Et je pense que en fait, il est assez. Il y a plein de candeur, il y a plein de bienveillance dans ce qu'il a réalisé comme film, M. Buñuel, là, puisque il raconte. Compte sur une base une matrice qui est sa culture catholique avec plein d'histoires belles et pas belles, et il nous amène à des univers très oniriques avec le surréalisme, et en même temps il a une structure qui est très simple qui nous ramène à nos vies, à nous, quoi. Donc du coup je pense que c'est assez clair.
Je ne sais pas si c'est clair. Ce que je voudrais dire, c'est que sur la question de penser ou pas penser, Buñuel lui-même affirme comme ça un anti-intellectualisme très militant dans ses entretiens. Il dit, oh là là, mais il ne faut surtout pas interpréter mes films, j'ai rien voulu dire. Et je suis absolument convaincue qu'il est parfaitement sincère et que c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il ne pensait pas. Je veux dire, penser, ça ne veut pas dire forcément penser selon des schémas... c'est plein de pensées ces films, alors qu'il ne faille pas mettre en face de chaque séquence et de chaque sous-séquence une signification univoque, ça pour le coup c'est très clair, mais je ne pense pas qu'il faille s'interdire de penser à ce que ça pense, quoi. C'est un film qui pense beaucoup, et je pense que ça, et je vais dire que ça pense beaucoup aussi aujourd'hui, ça nous donne à penser beaucoup parce que ça parle de religion d'une manière qui est à l'opposé de la manière dont on parle de religion aujourd'hui. Et pourtant, je pense qu'on peut apprendre beaucoup, y compris sur la générosité, y compris justement sur les multiples voix, la polyvocité, je crois que c'est du français. L'éparpillement, l'éclatement, le refus justement d'unifier tout ça dans des significations bien posées. Moi je sais pas, aujourd'hui, que ce soit Charlie Hebdo ou que ce soit Romeo Castellucci, dont je n'ai pas vu le spectacle, enfin je veux dire, ça pour le coup ça pense assez peu. Enfin, Castellucci, j'ai pas vu son spectacle, mais je veux dire, disons, tout ce qui se passe autour, ça, il me semble pas que ça déborde de pensée. Buñuel, ça pense. Alors, c'est pas selon des schémas, oui, signification binaire, mais c'est plein de pensées, quoi. C'est très intelligent, je veux dire, voilà. Vous savez, lui, il affirme un anti-intellectualisme auquel, pour le coup, je pense qu'il ne faut pas complètement se laisser prendre, quoi.
Oui, en tout cas, il n'affirme pas du tout dans le film. La manière dont il situe le discours intellectuel en contraste avec les événements quotidiens, visiblement, c'est pas de l'anti-intellectualisme, c'est plutôt la brisure d'une espèce de système de référence et de croyance quand il montre simplement qu'il est en morceaux, qu'il a toujours été en morceaux, qu'il n'y a jamais eu d'unicité du dogme, et il le montre par l'intermédiaire de ce que vous appelez des faux pèlerins, j'aimerais bien savoir pourquoi vous les appelez des faux pèlerins, parce qu'ils ne se présentent jamais comme ça. Donc il ne faut pas non plus tirer le film du côté du discours. Ce n'est pas un discours, c'est une œuvre d'art.
Non, mais on parle.
Et, à mon avis, pas très très réussi, d'ailleurs, de mon point de vue, est assez médiocre, qui est bien daté. Et c'est là le problème, d'ailleurs, parce que comme elle est justement relativement médiocre, on essaye d'en tirer du discours. Ça remplacerait le manque d'inspiration évident de ce film, à mon avis, personnellement. Cela dit, qu'est-ce que ça nous dit, à part le fait que ce qui se présente comme un dogme, évidemment soutenu par Franco, n'est qu'une construction, et que cette construction, il l'a déconstruite en montrant toute l'histoire, les hérésies. Ça, c'est assez actuel, effectivement, et pas uniquement par rapport à la religion, mais par rapport à tous nos systèmes de croyances sur la société. S'il y a quelque chose d'actuel par rapport à ce film, c'est que nous sommes à peu près dans la même situation par rapport à des vérités comme, par exemple, l'économie, la religion de l'économie. On la regarde avec autant de, je dirais, de candeur, de naïveté, de bêtise, de stupidité, que ces pèlerins, vrais ou faux, d'ailleurs, qui sont dans une sorte de pèlerinage qui est celui de la vie, tout simplement, avec ses absurdités, ses monstruosités, son manque de sens, ses contradictions. Donc, en ce sens-là, peut-être qu'il peut nous dire quelque chose. Mais à part ça, je trouve qu'il a bien vécu, un peu tôt mal, je dirais.
Les réactions ?
Ne me tournez pas le dos quand. non, je rigole. Enfin, vous savez, oui, tout à fait. Non, ça vous fait pas penser un tout petit peu à dans le traitement hein, de la chose, dans le côté daté aussi. Hein. Et moi, ça me fait toujours rire quand je regarde David Bryan, des Monty Python, et le côté un peu, finalement, où on reprend, on met un peu de saumure, on met un peu de sauce, on dénature un peu les choses. Je trouve que, oui, c'est peut-être un peu daté, mais ça reste un traitement assez léger, je trouve. Que celui de l'époque. Je voulais juste ajouter dans votre sens, aussi, en disant que le parallèle avec l'économie est à peu près le même. C'est vrai, aujourd'hui, où on ne sait pas très bien quoi diaboliser ou quoi déifier, et on se retrouve à brasser beaucoup, et puis même à utiliser des mots dont on ne maîtrise pas vraiment le sens, et des concepts dont on ne connaît pas la portée. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, je trouve que le côté un peu burlesque que peut prendre le film est finalement... pas daté, parce que il arrive à montrer, à collecter, à rassembler des choses que par les médias aujourd'hui, on peut avoir quasiment dans une seule journée. Il a réussi à capter, il a fait un travail de synthèse qui pour l'époque, est assez bien vu, je trouve.
Pour l'époque, il n'y a pas eu de bons films à l'époque.
Dans ce côté synthèse, enfin, tout voilà. Ensemble.
Il y en a eu quand même.
Oui, enfin, bon, sur la valeur du film, sur la valeur artistique du film, on n'est clairement pas d'accord. Moi, je pense que c'est quand même une très belle œuvre et qui n'est pas si datée que ça. Mais bon, il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est sur l'économie. J'avais d'ailleurs noté, j'avais noté un truc, j'avais vu sur une chaîne de télévision au mois d'octobre. Il y avait eu, à propos du mouvement Occupy Wall Street, il y avait eu un entretien, un interview avec des hommes d'affaires, des banquiers, des financiers, enfin des gens sérieux. Alors on leur demandait alors qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement. Alors ils disaient, évidemment il n'y avait pas de mots assez durs pour condamner le mouvement Occupy. Et notamment, ils expliquaient que, bon, évidemment, il n'y a personne qui dirige, on ne sait pas ce qu'ils demandent, il n'y a pas de revendication claire, on ne sait pas où ça va, enfin bon. Et ils disent, la seule chose qu'on comprend, c'est qu'ils veulent réformer la Constitution, ils veulent changer la Constitution. Ils disent, comprenez ça, c'est un anathème pour la démocratie américaine. Et je me suis dit, tiens, l'utilisation du mot anathème dans ce contexte, moi qui étais en train comme ça de réfléchir un peu au film, j'ai trouvé que c'était très saisissant, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, le domaine du religieux, c'est pas le seul domaine, mais enfin un domaine très clair du religieux, c'est le domaine économique et une certaine conception de la démocratie américaine comme ce qui, enfin voilà, la Constitution, c'est ce à quoi il ne faut pas toucher. Si on envisage d'y toucher, on est anathème. Donc voilà, rajouter dans la séquence des petites filles, changer la Constitution américaine.
Juste pour compléter, je veux dire que ce qui a été fait par le, enfin, c'est le mouvement des Antilles aux États-Unis dont tu fais référence, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est à vérifier, j'ai entendu, je ne sais pas, aux infos, comme quoi ils avaient décidé de payer des gens pour quitter la place, pour ne plus revenir. Donc, rapporter ça au christianisme, aux pratiques pour faire convertir les gens à qui on promettait nourriture, etc., etc., s'ils changeaient d'opinion, enfin, s'ils se convertissaient, il y a quelque chose de l'ordre de cette idée. Alors, ça rejoint un petit peu ce que tu disais au départ. C'est comment on est baigné par toute cette culture, même si on veut le mettre de côté, on est anti, etc. Il y a quand même une culture, en général, religio-chrétienne, hein, je veux dire, voilà, quand même, si on n'est pas pratiquant, on est athée, tout ce que tu veux, on est laïque. Il y a quand même là, on voit quand même des pratiques un petit peu bizarres.
Alors, je voudrais juste, si je peux me permettre, judo-chrétien, c'est un terme qui est apparu après la guerre. C'est un terme qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale.
Comme moi.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une histoire.
C'est en opposition au judaïsme.
C'est
en opposition.
C'est un petit peu plus historiquement, compliqué que ça, monsieur. Il s'est construit aussi en opposition avec lui-même. Et quand on parle de la matrice chrétienne, on oublie que là, on avait des catholiques et des huguenots. Et que croyez-moi, ils ne sont pas entendus. Hein. Donc il n'y a pas une matrice, il y en a au moins deux, avec une scission interne très forte. Et on oublie évidemment les orthodoxes, donc ça en fait trois.
Bah, il y en a là, beaucoup plus. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans ce film, c'est qu'il y en a infiniment plus.
C'est ce que veut nous montrer le film. Mais par rapport à la question de l'économie, il y a quand même une. On ne peut pas mettre sur le même plan l'idéologie américaine d'origine puritaine, dans laquelle la richesse et le fait de gagner de l'argent et de réussir en économie, c'est la preuve que Dieu est avec soi. Avec la vision catholique qui pense exactement le contraire. Donc, les placer ensemble pour penser la chose, alors là, c'est sûr qu'on ne s'en sortira pas. En France, il n'y a pas marqué « In God we trust » sur le billet du dollar, tout simplement parce que la religion n'a jamais quitté les États-Unis, jamais. De toute évidence, la laïcité là-bas n'est pas la laïcité ici. Alors attention, avec ce mot « laïcité » qui semble expliquer les choses, alors que c'est quand même une petite exception française, hein, de notre histoire. Il n'y a pas beaucoup de pays qui aient vraiment quitté la religion. Hein.
Mais la France non plus, monsieur.
C'est pour ça que
c'est vraiment effectivement.
On peut peut-être passer
à l'histoire de France, hein, tout simplement. Je partage assez votre.
Non, mais c'est-à-dire que là encore, on voit des huguenots et des catholiques, mais là encore, c'est pour ça que je reprocherais à Buñuel de ne pas avoir tiré vraiment sur la ficelle qu'il était en train de mettre en œuvre. Là, c'est quoi ce rapport entre huguenots et catholiques? Ben, on ne le voit pas.
Parce que c'est pas un film historique précisément comme vous l'avez souligné.
Mais il a bien l'intention de quelque chose lorsqu'il dit huguenot. Sinon, il se serait contenté de nous montrer.
Le dit pas, c'est moi qui le dis.
Non, c'est vrai.
Non.
Et d'ailleurs, non. Et vous avez raison parce que huguenot, alors c'est plus fantastique que, parce que ça s'est passé en Espagne. C'est censé se passer en Espagne, l'autodafé où on brûle les écrits de l'évêque qu'on déterre. Et en plus, c'est un clin d'œil à une histoire vraie, là, celle de Tolède Carranza. Pardon, qui a été l'Inquisition n'est pas allé jusqu'à l'emprisonner, et quand même c'était le primat de l'Espagne, on est sous Philippe II, au XVIe siècle, c'est archevêque Carranza, hein, effectivement, a été dépossédé pour de son diocèse, etc. Il est parti pour Rome, où il est mort, je crois, ensuite il est revenu à Tolède, et pas vérifié, mais c'est à peu près historique qu'il y aurait, non pas comme on voit les corps de l'évêque et les écrits, mais autodafé des écrits. Donc autodafé, c'est bien les écrits. Bon, c'est les mots que j'ai utilisés tout à l'heure. Mais c'est par rapport aux huguenots. En Espagne, à l'époque, il y avait tellement, sous Philippe II, il y avait pratiquement les érasmistes, qui étaient les réformateurs cathos, étaient pratiquement disparus, sous son père qui s'existait. Et des protestants, ils étaient rares, donc huguenots encore
Le terme huguenot est sans doute une extrapolation, mais ça ne se passe pas en Espagne. Je suis désolée, Buñuel, là, n'est pas tenu par, excusez-moi, Buñuel n'est pas tenu par la cohérence historique. Il prend des faits historiques et il les amalgame joyeusement avec une grande liberté. C'est-à-dire que géographiquement, au moment de cette séquence, on est en France. Ils n'ont pas encore passé la frontière. Donc,
je pense que...
Non, ils sont en France. Ils sont avant Bayonne. Ils sont.
Non, j'ai cité la scène après. Mais importe, par ailleurs, tels qu'ils sont accoutrés avec ces casques des conquistadors, ces armures, etc., et en France, bon, peu importe, la cause, vous avez raison.
Mais ils mélangent tout, sans doute, le terme huguenot ne convient pas, mais c'est vraisemblablement des calvinistes.
Je ne vous ai pas corrigé tout à l'heure.
Non, j'entends bien.
Les protestants, oui, parce que c'est beaucoup plus vague. Les huguenots, c'est les calvinistes, effectivement, qui existaient en France. Bon, pardon, vous dites que c'est en France, à moi en Espagne.
Mais peu importe, je ne pense pas qu'on soit tenu là par la cohérence historique.
Non, il prend
effectivement des événements, dont celui que vous avez indiqué, mais après il amalgame joyeusement avec.
Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la parole.
Mais c'était intéressant, vous aviez des éléments à nous apporter.
Par contre, vous m'excusez, c'est embêtant. Quand les gens font référence à quelque chose, moi je faisais référence à ce roman de Potocki, je voulais juste le décrire à quelques personnes peut-être parce que c'est un truc. Et quand j'ai commencé à voir ce film-là, je me suis cru balancé dans ce roman qui
est cité d'ailleurs à un moment.
Ah ouais?
Oui. Lorsque l'aubergiste vient dire n'ouvrez à aucun prix la porte. C'est dans Potocki.
Et je pense que
au début du roman.
C'est au début avec les sœurs musulmanes, je pense. Ouais. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que là, on a une sorte de jus très catho du nord de l'Espagne. Et en fait, le roman de Potocki, je ne sais pas trop ce que je dis, vous m'excuserez, vous me jugerez à la fin. C'est qu'en fait, dans Potocki, ça se passe dans le sud de l'Espagne. Ça se passe dans le sud de l'Espagne, et donc avec une collusion avec d'autres religions qui se fait plutôt bien, d'ailleurs, c'est en l'occurrence, et d'ailleurs aussi les gitans et les juifs. Donc on a ce mélange-là dont on ne sait pas trop quoi tirer au milieu du compte. Je tire la conclusion que c'est le constat qu'on fait par rapport aux distinctions entre huguenots, catholiques dans ce film. Et je voulais savoir si vous, à travers vos lectures de préparatoire, vous aviez connaissance d'une volonté que vous m'apprenez de réalisateur. De faire en quelque sorte de traiter le film un peu comme Potocki a traité cette histoire du sud de l'Espagne. Est-ce que c'est...
Non, moi je trouve ça très intéressant d'apprendre ça parce que je ne savais pas et dans tout ce que j'ai, enfin, j'ai pas lu ni vu Buñuel faire référence à ça. Je vous l'ai dit, Buñuel, il fait tout pour cacher ses intentions, ses références. Enfin, il est certainement pas. J'ai vu le travail qu'il fait d'amalgamation, voilà, il a aucune raison de nous donner ses sources. Hein. Donc, non, je ne le savais pas. Je trouve ça très intéressant. Mais je pense qu'on n'a pas à attendre. Voilà, on n'a pas à attendre de Buñuel qui soit cohérent. En fait, hein. Voilà, c'est ce qui fait, à mon sens, la richesse et la liberté de son film. Et je trouve intéressant justement qu'à l'occasion de cette discussion, il y ait des références qui surgissent, voilà.
Dans votre petite note, vous aviez l'air de parler, présentant votre intervention, vous évoquiez le roman de Cortázar, les autonautes de la Cosmoroute, je crois.
Non, j'évoquais pas ce roman, je parlais d'un road movie.
Sur une autoroute, tout ça faisait quand même assez fortement penser au tout livre de Cortázar que j'ai pas lu.
Le roman de Cortázar. Il a été écrit dans les années 70 après les films.
D'accord.
Peu importe. Hein.
Oui, c'est très l'ouverture du film avec les nationales fait apparaître ce dégage. Parce que
ce roman raconte comment un couple va découvrir en tant qu'anthropologue la nature des aires de stationnement d'autoroute. Et là, l'ouverture qu'on a avec ce chemin des nationales, c'est étonnant, il a peut-être accéléré un peu la bobine à un moment donné, mais il y a une frénésie sur les départementales entre les poids lourds et les petites voitures. C'est assez étonnant. Et c'est peut-être à ça que fait l'allusion.
J'avais cru lire
chose qui m'apparaissait comme une référence au texte de Cortázar. Mais c'était peut-être...
Une référence inconsciente.
Wishful thinking.
Non, je suis désolée.
Mais vérifiez les dates. Hein. Cortázar, je pense qu'il l'a écrit après.
Vous avez sûrement raison.
Bien, bien. En tous les cas, c'est vrai que si on essaie d'attaquer ce film par de la véracité historique, on est mal parti. Donc moi, ce qui était... c'est compliqué. Donc, la question, l'hypothèse de discussion que tu nous soumettais là ce soir, c'était de voir un petit peu l'actualité, si j'ai bien compris.
L'actualité, oui, mais là aussi par un biais, enfin, voilà, dire simplement l'actualité en disant... Disons que moi, ça me paraît actuel au sens... voilà, écran philosophique, au sens philosophique, ça me paraît actuel au sens où ça met en œuvre une pensée qui m'est utile à moi aujourd'hui. Mais voilà, dans un autre contexte, Buñuel évidemment parle d'un autre moment, d'un autre endroit, etc., et que ses préoccupations ne sont pas... Mais... disons qu'il y a quelque chose de très rafraîchissant, voilà, de très et qui me dit quelque chose sur comment, y compris comment être agnostique, comment s'expliquer avec la religion, avec la culture commune, avec ceci et cela, d'une manière qui ne serait pas la manière, j'ai envie de dire vraiment, alors là, vous pétez les chambres d'aujourd'hui, quoi. D'un coup, il y a une espèce. Enfin, je suis désolée, hein, je sais que monsieur n'est pas d'accord avec moi, je trouve qu'il y a une intelligence extraordinaire, quoi. Et une générosité, j'y reviens. Et y compris, moi, je veux dire. Et en même temps, une intransigeance, quoi, quelque chose qui ne fait pas de cadeau particulièrement. Mais voilà, pour parler du christianisme, alors pour dire les choses clairement, on parle du christianisme, on a à s'expliquer avec la religion chrétienne, on parle de la religion chrétienne. On ne se met pas tout de suite à parler de la religion en général et de se focaliser sur les autres religions. C'est-à-dire que c'est typiquement le mouvement qui a été le mouvement hégémonique européen depuis le XVIIIe siècle, c'est on doit s'expliquer avec le christianisme, on va immédiatement généraliser à toutes les religions et surtout d'abord au judaïsme et l'islam. C'est-à-dire que c'est d'abord ça, je veux dire, Voltaire, attaquer les autres religions par boomerang revenir sur le catholicisme ou l'inverse. Mais je veux dire ou l'inverse, ça peut être lu de différentes manières et c'est lu de mille manières. Ce que je veux dire, c'est que là, on a Buñuel qui a des comptes à régler avec le catholicisme notamment, mais de manière générale, qui trouve en même temps que le christianisme c'est une espèce de chose. Enfin, il a une vision un peu nietzschéenne en même temps de dire c'est quand même une production extraordinaire de l'esprit humain, quoi, d'abord. Alors après, aussi mortifère et plein de choses autres, mais d'abord une espèce de choses incroyablement productives, quoi, en théorie, en histoire, en voilà. Et il s'explique avec ça, et il ne cherche pas de biais, il ne contourne pas ça en allant parler des autres. Ou en, imagine, ou en parlant de la religion en général, toutes les religions. Non, il a un sujet, il s'y tient, pendant tout son film. Ça, je trouve ça assez rare, quoi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je trouve, moi, ça me touche énormément, quoi.
Je crois que j'ai compris ce que vous voulez dire, mais j'avoue que pour le moment, je n'ai vraiment pas compris ce que Buñuel pouvait expliquer. Le christianisme, il n'a rien expliqué, il a montré, parce que c'est un artiste qui ne fait pas des discours, il fait un film.
Pas prétendu qu'il expliquait, je suis désolée.
C'est ce que vous venez de dire.
Absolument pas.
on écoutera l'enregistrement.
S'explique avec le christianisme. Ça ne veut pas dire qu'il explique le christianisme.
Oui, mais justement, je n'ai pas l'impression qu'il s'explique avec le christianisme. Il nous montre des lambeaux de l'histoire. Il ne prend position en aucun cas. Il y a une position, puis une autre, puis une autre, puis une autre.
Non, on a probablement un problème de langage.
Donc l'explication, s'il y en a une, c'est que justement, il n'y en a pas. Ce que j'appellerais une crise en termes de...
L'expression s'expliquer avec quelque chose ne renvoie pas à la notion d'explication dans le sens de
l'actualité de la crise.
Pardon ?
Ce serait donc ça l'actualité du film, la crise.
Ben, il est évident que la crise que nous vivons, elle n'est pas née d'hier, hein, que 68, c'était déjà le tsunami, ça avait déjà commencé bien avant. Même. Donc c'est la même crise. Il est évident que Buñuel est un témoin de cette crise. Il est évident que 40 ans plus tard, on peut avoir un tout petit regard sur voir qu'est-ce qu'il voyait de la crise et comment il en parlait. Par exemple, M. Raoul Van Hegel, qui a joué un rôle assez important dans ces événements de 68, a écrit sur les hérésies chrétiennes des choses bien plus intéressantes que ce que Buñuel vient de mettre là en scène. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la crise de l'époque de considérer comment le christianisme est historiquement fait de crise, et uniquement de crise, avec des inquisitions, avec on brûle, on se sépare, on coupe, on enlève, etc. Crise permanente du christianisme. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que cette crise touche plus profondément que simplement des systèmes de croyances religieuses et spirituelles. Ce sont les fondements même d'un système de pensée, de croyances, de convivialité, de politique, d'économie, tout ça est en crise. C'était déjà en germe chez Buñuel, évidemment. Le tout petit côté de la lorgnette, à mon avis, justement, il ne s'explique pas, il ne sait pas. Et ça, ce que j'aime bien, c'est probablement la chose honnête de Buñuel, il ne nous sert pas du discours, il nous montre le fait que c'est vraiment difficile à penser, et que quand ces gens-là pensent, par exemple, en duel, ou en faisant n'importe quoi, c'est carrément ridicule, tout simplement. Parce que dès que ce discours est déconnecté de son contexte, il apparaît pour ce qu'il est, c'est-à-dire des beaux paquets de mots qui ne disent rien du tout. Donc on est confronté à la même chose. Écoutez les économistes aujourd'hui, vous entendez exactement les mêmes blabla, avec le même duel, avec les mêmes certitudes, avec les mêmes enthousiasmes, les mêmes passions, sauf que la religion n'est plus la même, le Dieu n'a plus le même nom, aujourd'hui c'est l'argent, ou comme on voudra. Le mot qu'on prononce le plus aujourd'hui, c'est le mot crise de crédit. Si on se rappelle un tout petit peu l'étymologie, crédit ça veut dire croire, c'est la croyance et la confiance que l'on fait à l'autre, c'est ça la crise. C'est pas nouveau. Hein.
Oui, enfin, je sais pas si on peut dire simplement qu'on est dans le. Qu'il s'est rien passé. Enfin, non, je suis pas d'accord. Là, clairement, je suis pas d'accord.
Vous êtes pas d'accord avec quoi ?
Avec l'idée que ce qu'on vit maintenant, c'est la même chose que ce qu'on vivait il y a 40 ans, que la crise économique, c'est la même chose que la crise religieuse. Non, je pense qu'il y a quand même des spécificités à observer. Tout à l'heure, j'ai fait un rapprochement à partir de la notion d'anathème. Pour moi, c'est simplement pour voir comment le langage, tout d'un coup, il y a des glissements. Bon, mais non, je pense que la question de la religion n'est pas terminée sous prétexte qu'il se passe des choses dans le domaine économique qui sont inédites, nouvelles, et qui effectivement ont à voir avec quelque chose.
C'est pas ça que j'ai dit.
Ceci dit, moi, ce que je trouve passionnant, c'est l'intensité la manière dont il restitue cette intensité des débats. Effectivement, c'est ridicule, ça nous paraît à nous ridicule et absurde. N'empêche qu'il y a des gens pour qui c'était. Il y avait un niveau d'investissement extrême. Et bien sûr, c'est toujours facile de se moquer de l'investissement rétrospectivement, de dire oui, bon, c'était absurde.
C'est pas moi qui me moque, c'est
Oui, mais je ne pense pas qu'il se moque. Je pense qu'il a, beaucoup, il a un regard très tendre avec ça.
Je ne comprends pas la même chose. Il se moque, c'est évident.
D'ailleurs, il se moque tendrement.
Mais d'ailleurs, de ces discours, nous ne comprenons rien. Ils ne sont pas argumentés une seconde. Nous ne comprenons rien à ce qu'ils disent. C'est fait exprès.
Bon, je pense qu'on n'a juste pas le même regard
Il se moquait toute sa
vie. Pendant le duel, j'ai rien compris.
Il se moque, mais.
Le duel. Pourtant, je me suis accroché, mais de quoi il parle ?
Bien sûr qu'il se moque, mais il moque avec tendresse. Je veux dire, je répète ce que je disais tout à l'heure. La moquerie, c'est se situer au-dessus. Et là, il n'y a pas ça, il n'y a pas de supériorité. Il y a un humour extrait, il y a beaucoup d'humour, bien sûr, il y a de l'humour. Il n'y a pas de cynisme, il n'y a pas de mépris. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pas de mépris. La moquerie, ça implique un peu de mépris, quand même. Mais bon, peut-être que...
On va peut-être conclure. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, il y a des mots qui reviennent du film de Buñuel, ton anathème que tu as évoqué, mais je suis aussi plus sensible aux mots qu'on utilise dans certains champs qui reviennent dans d'autres, et on les utilise de manière innocente. C'est peut-être ça, de savoir de quoi on parle, d'où viennent ces mots. Et la pire des choses, c'est qu'il y a des mots qu'on oublie complètement parce qu'ils sortent du vocabulaire, et des mots nouveaux qui masquent des portes de compréhension qui, pour moi, c'est du nouveau latin. Donc ça, peut-être, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est intéressant dans l'actualité de langage d'un champ de pensée qui peut être d'un champ de croyance qui investit aujourd'hui avec de nouveaux mots d'autres champs de croyance qui à un moment donné on se dit mais c'est pourquoi faire sinon de prendre le pouvoir et de continuer à faire du profit. Voilà, merci à toi Joël et puis merci à vous tous et bonsoir, bonne nuit.